Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Nadine Jasmin, spécialiste des questions d'égalité femmes-hommes. Bonjour Nadine.
Bonjour.
Après une première émission s'intitulant « Stéréotypes quand tu nous tiens », je vous propose que nous abordions ensemble le sujet de la discrimination. Mais la discrimination, c'est quoi? On entend souvent dire « c'est de la discrimination ». On m'a discriminé au travail pour me loger.
Effectivement, on emploie beaucoup ce terme et sans toujours faire la part de ce qui est une discrimination et de ce qui ne l'est pas. Mais la loi est très précise sur le sujet et tout acte ou parole injuste, raciste, sexiste ne constitue pas forcément une discrimination au sens légal du terme.
Commenter la tenue de ses collègues, poster des blagues sexistes, c'est de la discrimination par exemple?
Non, ça c'est du sexisme ordinaire et parfois des agissements sexistes réprimés par la loi, mais ce ne sont pas des discriminations au sens strict. La discrimination repose sur une définition juridique précise qui tient en trois points. Premièrement, il doit s'agir d'un acte, non d'une parole, insulte, menace, critique, déclaration d'intention. Discriminer, c'est traiter de personnes, de dossiers, de candidatures, de manière inégale dans une situation comparable. Par exemple, un entretien d'embauche. Deuxièmement, la discrimination doit s'exercer dans un domaine prévu par la loi. Accès à l'emploi, à l'éducation, au logement, à la santé, à la protection sociale et plus largement aux biens et services de toute nature, privés ou publics. Troisièmement, la discrimination doit s'effectuer sur la base d'un critère prohibé par la loi. Le droit communautaire, qui est à l'origine du droit de la discrimination, en reconnaît 10, dont l'origine, le sexe, l'âge, la religion, le handicap, les opinions politiques et quelques autres. Mais le droit français en reconnaît beaucoup plus, à ce jour, 25 critères. Les 10 qui sont issus du droit européen et 15 autres critères aussi variés que le patronyme, le nom de famille donc, ou la perte d'autonomie, le lieu de résidence, la domiciliation bancaire et bien d'autres. Ça, c'est une particularité du droit français que de comporter autant de critères par rapport au droit européen. Si je résume, la discrimination, c'est dans une situation donnée, une inégalité de traitement dans un domaine et selon un critère reconnu par la loi. Ce qui veut dire que pour discriminer, il faut être en position de le faire, c'est-à-dire d'offrir ou de détenir un bien ou un service qu'on peut soit octroyer, soit refuser à telle ou telle personne. Pour prendre un exemple qui revient fréquemment et sur lequel il peut y avoir une ambiguïté, une femme voilée qui s'adresse au guichet d'une mairie ne commet aucune discrimination, par exemple, puisque elle n'est pas en position d'offrir un service à qui que ce soit. Au contraire, elle vient pour bénéficier d'un service. Par contre, l'agente ou l'agent qui refuserait de la recevoir ou qui exigerait d'elle qu'elle enlève son voile pour la servir commettrait une discrimination au sens légal, puisque c'est lui ou elle qui est en position d'accorder ou de refuser ce service.
Que reconnaît la loi en matière de discrimination liée au sexe?
Il existe dans le droit français plusieurs critères de discrimination qui sont liés au sexe, certains directs et d'autres un peu plus indirects. Alors bien sûr, en premier, la discrimination a raison du sexe proprement dit, à savoir le fait d'être une femme ou un homme ou d'être ce qu'on appelle intersexe. Un second critère est l'orientation sexuelle, hétérosexuelle, homosexuelle, bisexuelle ou toute autre forme d'orientation sexuelle. Mais attention, il ne faut pas confondre ce critère avec un troisième qui est l'identité de genre, c'est-à-dire le fait de se sentir ou de s'affirmer femme ou homme indépendamment de son sexe biologique. Quand je parle de genre, ça vient de l'anglais gender, qui désigne justement la manière dont on se sent, dont on se perçoit, dont on se vit, dont on a envie de se présenter à autrui en tant que femme ou homme. Et le genre, c'est aussi une construction sociale, bien sûr, selon les époques, selon les sociétés, selon les pays, on n'attend pas les mêmes choses, des hommes, des femmes, des filles, des garçons. Et c'est aussi à cette construction sociale et à ce ressenti personnel que renvoie la notion de genre. C'était donc le troisième critère, l'identité de genre. On peut aussi mentionner la grossesse et la situation de famille, être célibataire, en couple, séparé, divorcé, avec des enfants, sans enfants, qui constituent également des critères liés au sexe. Et enfin, le fait d'avoir subi ou refusé de subir du harcèlement sexuel ou d'avoir témoigné de ces faits constitue un dernier critère de discrimination liée au sexe. Alors, on peut voir que le panel est quand même large, plutôt bien étoffé, de manière à balayer la plupart des délits discriminatoires, sexistes ou homophobes.
Concrètement, pouvez-vous nous donner des exemples de discrimination liée au sexe qui pourraient se produire dans la fonction publique ?
Comme toujours, la fonction publique présente deux aspects, externe et interne. Au niveau de l'aspect externe, en tant que pourvoyeuse de services publics, elle est en situation potentielle de discriminer les personnes qu'elle reçoit ou dont elle traite les demandes. Alors pour prendre un exemple qui est vraiment très récent dans l'actualité, un chauffeur de bus a refusé de prendre à bord une jeune femme vêtue d'une jupe courte. Si on regarde la loi, ça semble être une discrimination qui serait liée à l'apparence physique. C'est l'un des critères reconnus par le droit français. Mais en fait, ce n'est pas une question d'apparence physique en soi, mais un critère de sexe qui est sous-jacent et même dominant. C'est parce qu'il s'agissait d'une femme en jupe et pas d'un homme en Bermuda, par exemple, que le chauffeur a refusé de la prendre à bord parce qu'il avait un jugement de valeur et une certaine représentation de ce qui est décent ou indécent pour une femme de porter. Donc là, on voit bien comment être pourvoyeur, comment la fonction publique, en étant pourvoyeuse de services aux usagères, aux usagers, aux citoyennes, aux citoyens, peut ou pas opérer des discriminations. Alors évidemment, le même genre de comportement peut s'observer de la part d'usagères ou d'usagers envers des agentes ou agents. Et je pense par exemple au cas d'une officière de police municipale qu'elle m'avait raconté, confrontée à un habitant qui refusait d'être reçu par elle au motif qu'elle était une femme, et donc à ses yeux, elle était forcément, entre guillemets, moins compétente et moins légitime qu'un homme. Alors bien sûr, c'est un comportement de type discriminatoire, mais, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une discrimination au sens légal, dans la mesure où cet usager n'était pas en position d'octroyer ou de refuser un service à cette fonctionnaire. C'était bien l'inverse. L'officier de police était en mesure de prendre ou pas la déposition, par exemple, la demande de cet usager, et non pas l'inverse. Mais cela étant, la majorité des discriminations liées au sexe risquent de se produire en interne dans des situations de recrutement, d'avancement, d'affectation ou de mutation au sein de la collectivité.
Oui, mais la fonction publique doit être à l'abri de ce genre de discrimination, avec ses recrutements par concours, ses grilles indiciaires, son avancement très encadré.
Mais c'est ce qu'on pourrait penser, mais malheureusement, non, ce n'est pas le cas. Un rapport très intéressant de Yannick Lorty est paru en 2016, qui traite des discriminations dans l'accès à l'emploi public. Et ce rapport rappelle deux faits. Premièrement, sur 500 000 recrutements par an, tout type, tout durée de contrat, le recrutement des titulaires par concours ne concerne que 80 000 cas, c'est-à-dire moins de 1 sur 6. Donc, vous voyez déjà que dans l'accès à la fonction publique, on se retrouve dans des situations, alors même si le concours n'est a priori pas discriminant, eh bien la majorité des recrutements se fait hors concours. Donc, ce qui augmente bien sûr le risque potentiel de discrimination. Et d'autre part, on se représente à tort les personnes discriminantes comme des individus isolés qui seraient ouvertement racistes, sexistes, homophobes ou autres et qui discrimineraient volontairement telle ou telle catégorie de personnes. Ça, c'est peut-être l'idée qu'on peut s'en faire. Alors qu'en fait, les individus, vous, moi, n'importe qui, sont avant tout victimes de stéréotypes qui opèrent le plus souvent à leur insu, à notre insu. Et donc, ce qui est vrai au niveau individuel d'une personne, l'est aussi au niveau collectif. Il y a rarement volonté consciente, avérée de discriminer. Et en ce qui concerne une organisation ou une institution, évidemment, il n'y a pas de politique, volontaire de discrimination. Mais par contre, il y a des processus objectifs, subjectifs, qui sont facteurs et producteurs de discrimination. Par exemple, l'organisation très décentralisée du recrutement dans la fonction publique territoriale surexpose au risque discriminatoire par rapport aux deux autres fonctions publiques. Et ça explique du coup les conclusions du rapport Lorty, qui pointe trois catégories de personnes victimes de discrimination dans l'accès à l'emploi public. Et on ne parle que de l'accès, pas des autres aspects. Les femmes, les personnes nées hors de France métropolitaine et les personnes qui résident dans des villes comportant beaucoup de quartiers prioritaires. Et puis, les trois critères, bien sûr, peuvent se combiner pour accentuer les discriminations au recrutement.
Est-ce qu'on trouve d'autres discriminations dans la fonction publique ?
Malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, la fonction publique n'est à l'abri d'aucune discrimination, que ce soit en termes de recrutement, d'avancement, de notation, d'affectation, de mutation, d'accès à la formation, de conditions de travail, de définition de poste, d'attribution de tâches. Et bien sûr, ces discriminations qui produisent des inégalités vont aussi se payer, se répercuter en termes d'égalité salariale et aussi au niveau des retraites. Et donc, les discriminations, ce sont, comme je le disais, toutes ces décisions qui ne sont pas motivées, pas fondées sur les compétences professionnelles, mais qui sont liées aux projections, aux représentations qu'on se fait. Par exemple, qu'une femme qui a des enfants sera forcément moins disponible qu'un homme dans le même cas, alors que cette femme est peut-être très bien entourée, elle est peut-être très bien organisée et elle est peut-être parfaitement en capacité de faire face aux aléas de la vie de famille. Ou alors, au contraire, ce peut être la tendance d'un responsable à ne recruter que des stagiaires, entre guillemets, jeunes et jolies. Et là, c'est une discrimination inversée qui conduit à exclure d'autres candidatures, masculines ou féminines. On peut trouver aussi d'autres cas de figure de discrimination. Par exemple, la répartition des secteurs ou des tâches au sein d'un service, d'une équipe, d'un projet, avec des attributions très stéréotypées finalement. Par exemple, ce qui relève de l'autorité, des fonctions stratégiques, techniques, financières, traditionnellement connotées masculines, vont avoir tendance à se retrouver à échoir aux hommes. Et pour prendre d'autres exemples, dans la police municipale, ce peut être, tout ça, ce sont des exemples que j'ai rencontrés effectivement, ils sont pas fictifs, là je vous renvoie vraiment à des situations vécues. Dans la police municipale, donc, ce peut être la réticence d'un responsable de service à envoyer les femmes sur certaines situations délicates, ou sur les rondes de nuit. Dans le secteur de la petite enfance, ce peut être l'hésitation d'une directrice de crèche à recruter un puériculteur homme, en projetant en fait sur lui la peur des parents de voir un homme s'occuper de leurs enfants, des enfants en bas âge. Ou alors, dans les filières techniques ou sportives, ce sera la difficulté à nommer des femmes aux postes à responsabilité et la tendance, entre guillemets, spontanée à leur préférer des hommes parce qu'on les perçoit comme plus naturellement à leur place, à la tête de ces filières. Et tout ça se retrouve, bien sûr, au niveau des directions générales. Les femmes accèdent très rarement au poste de directrice générale des services, alors qu'elles constituent la majorité des cadres, et donc que le vivier féminin est bien là, et est largement supérieur au vivier masculin. Et pourtant, elles restent minoritaires lorsqu'elles montent dans la hiérarchie. Et puis, il arrive également que des femmes revenant d'un congé maternité soient confrontées à la dégradation de leurs conditions de travail, et notamment des tâches qui leur sont attribuées. Donc, je donne quelques exemples, on pourrait les multiplier, il ne s'agit pas de dire que voilà, les fonctions publiques sont éminemment discriminantes, ni majoritairement, mais ça donne quelques exemples de situations de discrimination qui ensuite vont aboutir à des inégalités. Donc, vous le voyez, les formes, les circonstances, les situations de discrimination sont multiples, parfois insidieuses et parfois même inconscientes. Et bien sûr, toutes les situations d'inégalités ne sont pas liées à des discriminations et à une personne qui discriminerait. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que toutes les discriminations produisent des inégalités.
Oui, produisent inégalités, d'accord. Comment la loi punit-elle ces discriminations ?
Dans le cas de figure général, l'auteur de discrimination encourt jusqu'à 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende pour une personne physique. Mais c'est intéressant de remarquer que dans le cas des agents agentes de la fonction publique, la peine est aggravée, puisqu'à ce moment-là, l'auteur de discrimination encourt jusqu'à 5 ans de prison, et non pas 3, et 75 000 euros d'amende, et non pas 45 000, lorsqu'une discrimination est commise dans un lieu ou l'accès à un lieu accueillant du public, ou bien par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions et de sa mission. Autant dire que la loi prend tout à fait au sérieux les actes de discrimination, en particulier lorsqu'ils sont commis dans le cadre de la fonction publique et des services publics.
Effectivement. Dernière question, Nadine. Que peut-on faire pour prévenir les discriminations dans la fonction publique ?
D'abord, il existe des dispositifs légaux pour corriger les inégalités liées aux discriminations en raison du sexe. C'est ce qu'on appelle l'action positive. Je préfère parler d'action positive que de discrimination positive, terme qu'on entend parfois également, mais il me paraît un peu contradictoire. La discrimination, c'est ce qui est connoté de manière plutôt négative, en tout cas dans le droit. Voilà, et la coller à quelque chose de positif, à titre personnel, me parle assez peu, donc je préfère parler d'action positive. Il s'agit donc d'un dispositif précis, encadré par la loi, et qui offre toutes les garanties d'égalité. Il s'agit absolument pas de privilégier une personne de manière arbitraire, sur le seul critère de son sexe, mais, en toutes circonstances, de privilégier cette personne à compétences égales. Donc ça n'a absolument rien à voir avec du favoritisme, ou ce qu'on appelle parfois les femmes quotas, qu'on pourrait soupçonner d'avoir été choisies uniquement en raison de leur sexe. Une femme ne sera ou ne serait recrutée préférablement à un homme qu'à compétences égales, dans une situation d'inégalité clairement identifiée. Et puis, il faut rappeler que l'action positive concerne aussi bien les hommes que les femmes, puisqu'elle s'applique toujours au sexe qui est sous-représenté dans la filière, dans le cadre d'emploi ou dans le grade concerné. Et enfin, il s'agit d'un dispositif qui est théoriquement temporaire, qui est destiné, dans l'idéal en tout cas, à disparaître le jour où femmes et hommes atteindront effectivement l'égalité salariale et professionnelle. Autrement dit, il ne s'agit pas de remplacer une inégalité par une autre, mais de supprimer des inégalités structurelles en rétablissant un équilibre qui a été faussé par les discriminations et tout un ensemble de processus. Ça, c'est bien sûr une première manière de corriger les discriminations une fois qu'elles sont advenues. Mais on peut se placer aussi en amont et à ce moment-là, la formation dans le domaine des discriminations me paraît essentielle pour prendre conscience du problème, de ses mécanismes, comprendre les risques, les conséquences qu'il entraîne au niveau individuel et collectif, dans le monde du travail bien sûr, mais aussi pour tout un chacun dans la vie quotidienne, puisque n'importe qui peut être victime, témoin, voire auteur involontaire de discrimination. Et donc suivre une formation permet d'identifier ses propres stéréotypes et d'acquérir des postures professionnelles et personnelles aussi bien sûr, non discriminantes. Et puis, là, je me situais d'un point de vue individuel, mais sur un plan structurel, organisationnel, il est essentiel pour l'éthique, pour les valeurs de la fonction publique, mais aussi pour l'efficacité du service public et de son fonctionnement interne, il est essentiel donc que les collectivités mettent en œuvre une politique globale de lutte contre les discriminations et les inégalités. Un certain nombre de collectivités, territoriales ou autres structures, mettent déjà en œuvre ce type de démarche pour lesquelles il existe des accompagnements, des chartes, des labels, par exemple le label diversité de la fonction publique, mais il y en a d'autres. Et donc c'est en faisant preuve de volontarisme administratif, politique, que les politiques publiques deviendront vraiment égalitaires, inclusives, exemplaires et novatrices.
Nadine Jasmin, merci infiniment pour ce nouvel éclairage.
Merci à vous.
Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, vous voici maintenant outillés sur cet aspect du sujet de l'égalité femmes-hommes. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site radio.cnfpt.fr. À très bientôt pour un troisième épisode sur ce sujet de l'égalité femmes-hommes. Au revoir.
Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.